Le règne animal. Le nouveau film Événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le samedi 9 avril 2022 et qui s'intitulait Eugène Sue. Eugène Sue, prince du feuilleton, avec Judith Lioncamp.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celle dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Monsieur Eugène Sue semble écrire avec trois mains. On le retrouve partout. L'œuvre est diverse, la réussite est pareille. Tous les autres romanciers, auteurs de nouvelles et de contes, gardent le silence, comme convaincus de l'inutilité de leurs efforts pour lutter contre cette
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. L'ombre était propice. Il ouvrit doucement la porte et il s'arrêta tout net. Le spectacle qui s'offrait à ses yeux le glaça d'horreur. La suite au prochain numéro. Nous allons parler ce matin du roman feuilleton. Le roman feuilleton, tel qu'il s'est épanoui en France au temps de la monarchie de Juillet, pour connaître un développement d'une grande rapidité. L'essor populaire en notre temps des séries télévisées ne peut qu'inciter à dresser un parallèle. Quelles que soient en effet les différences du support et des moyens de diffusion, on peut discerner sans trop de peine la similitude de certains ressorts dans le cas de l'un et l'autre de ces deux triomphes. Eugène Sue n'a pas été, et de loin, le seul à compter dans le domaine du roman feuilleton. Alexandre Dumas, Paul Féval, Ponson du Terrail, Gaboriau, d'autres encore, complètent, dès son époque, la petite cohorte des auteurs qui brillèrent dans cette catégorie. Mais Eugène Sue a pu être salué, au mi-temps du XIXe siècle, comme le prince du feuilleton. Et c'est donc à lui que nous allons nous attacher. Son œuvre, en vérité, constitue la meilleure voie d'entrée vers notre sujet. Ses productions majeures, Les Mystères de Paris ou Le Juif errant, ont connu en leur temps un succès prodigieux dont nous allons essayer d'éclairer les ressorts, qu'ils soient spécifiques ou qu'ils soient universels. Et pour ce faire, il n'est pas de meilleur guide que Judith Lioncamp, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches et ses curiosités lui ont permis d'approcher de près le personnage et elles lui permettent de se mouvoir à l'aise dans ce monde qui constitue une composante importante de la culture dans sa dimension la plus large. Un monde qui offre un répertoire profus de diverses émotions humaines. Un monde aux couleurs tranchées, aux angles aigus, aux libertés souvent fascinantes.
Écoutez donc cette histoire étonnante où la vertu n'est pas récompensée. Le mal triomphe des âmes innocentes, mais le destin saura bien les venger. Gardez chez vous vos enfants et vos femmes, écoutez bien vous qui êtes à l'abri. Voici le temps des châtiments infâmes dans le secret des mystères de Paris.
« Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme de taille athlétique, vêtu d'une mauvaise blouse, traverse le pont au change et s'enfonce dans la cité, dans ces rues tortueuses qui s'étendent depuis le palais de justice jusqu'à Notre-Dame. Le vent s'engouffrait violemment dans les ruelles de ce lugubre quartier. La lueur blafarde des lanternes se reflétait dans le ruisseau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux. La nuit était profonde. L'eau tombait à torrents. De fortes rafales de vent et de pluie fouettaient les murailles. Dix heures sonnaient dans le lointain à l'horloge du palais de justice. Des femmes, embusquées sous des porches voûtés comme des cavernes, chantaient à mi-voix quelques refrains populaires.
Judith Yoncamp, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé un extrait d'une adaptation radiophonique des Mystères de Paris, de Eugène Sue. C'est une adaptation due à Yvan Audouard et à Jacques Legris. Le premier épisode avait été diffusé le 14 janvier 1954 et la chanson du générique, la complainte des Mystères de Paris, était due à Georges Van Paris. Quelqu'un a dit que la ville, la grande ville de Paris, était au fond le personnage principal des Mystères. Est-ce que vous agréeriez cette idée ?
C'est un roman du labyrinthe urbain qui commence dans les ruelles de l'île de la Cité, qui avant les travaux d'Haussmann était particulièrement tortueuse et réputée malfamée. Et donc on est introduit au début du roman dans cet univers que Eugène Sue présente comme un univers de sauvagerie. Et puis progressivement, on est amené à fréquenter d'autres milieux, à se promener dans d'autres quartiers, si bien qu'en effet, Les Mystères de Paris est un grand roman de Paris, avant tout, même si les personnages sont particulièrement saillants.
C'est le Paris d'avant Haussmann, si on se promène aujourd'hui du côté de l'île de la Cité ou du côté du quai de la Tournelle, le décor est bien différent.
On voit plus grand-chose, il y a un petit reste du côté de la rue des Ursins qui peut faire penser à ce que ces rues étaient, mais c'était aussi des quartiers extrêmement denses qui étaient peuplés d'une population laborieuse qui était aussi réputée pour sa densité prostitutionnelle, puisque un des premiers personnages que nous croisons dans Les Mystères de Paris, c'est une jeune femme embusquée sous un porche, la Goualeuse ou Fleur de Marie, qui est une prostituée.
Nous allons trouver d'emblée une opposition entre les méchants et les gentils. C'est une des composantes de ce genre de littérature populaire. Les méchants, c'est la chouette et le maître d'école. Une sorte d'annonce des Thénardier de Victor Hugo, ou le Chourineur. Et du côté des gentils, Rodolphe et Fleur de Marie. Expliquez-nous ça.
Alors d'abord, Victor Hugo a en effet beaucoup lu Les Mystères de Paris. D'ailleurs, la conception des Misérables date de l'époque des Mystères de Paris, hein, du milieu des années 1840. Il y a énormément de points communs entre Fleur de Marie et Fantine, en réalité, plus que Cosette. Enfin, Fantine et Cosette sont deux possibles de Fleur de Marie. C'est un roman qui utilise tous les ressorts du mélodrame. Donc, les méchants sont très méchants, sont extrêmement laids, sont effrayants. Et les gentils sont capables d'une très grande violence pour faire gagner la justice. C'est une des particularités des Mystères de Paris, c'est que non seulement les gentils sont gentils, mais que pour parvenir à punir les méchants, ils peuvent devenir très méchants.
Il y a un épisode initiatique où Rodolphe, le prince Rodolphe, le gentil, s'en prend au Chourineur et fait naître du coup, physiquement, par une bagarre physique, une sorte d'amitié improbable.
Oui, c'est le tout début où, en effet, donc Rodolphe, qui est un prince d'une principauté allemande de fantaisie, arrive à Paris déguisé en ouvrier et croise donc dans ces ruelles de l'île de la Cité un personnage extrêmement massif qui est un repris de justice, qui a chouriné, donc dans l'argot du 19e siècle, qui a tué, qui voyait rouge, qui est un ancien boucher. Et en fait, Rodolphe s'impose à lui par son habileté physique, en le battant à la savate. Alors ça a beaucoup fait couler d'encre au 19e siècle, quand le roman est sorti, la savate est devenue à la mode. Il y a eu énormément de caricatures dans la presse sur ce personnage de prince qui faisait de la savate.
La savate, c'est quoi exactement ?
C'est une espèce de boxe.
Avec le pied aussi ?
Avec les pieds et les mains, absolument. Rodolphe, qui est un homme élégant et fluet, s'impose physiquement au Chourineur. Et s'imposant physiquement, il va s'imposer moralement, puisque ce repris de justice, en fait, se révèle être un des personnages bons du roman.
Vous avez deux parrains, Judith Yonkamp, que vous saluez dans vos œuvres. C'est d'un côté Alain Corbin qui a préfacé votre premier livre majeur, nous en parlerons tout à l'heure, et puis c'est Dominique Khalifa, très, très regretté. Alors j'ai envie de lui donner la parole quand il définissait précisément l'atmosphère de ses romans feuilletons. Il disait, d'un côté, les héros admirables, les amours chastes, le dévouement sans limite des épouses ou des mères, l'appel du devoir et les renoncements pathétiques. De l'autre, la cruauté extrême, les machinations perverses, les meurtres, les viols, les supplices, servis parfois avec un peu de complaisance, mais emportés dans le maelstrom des batailles, des invasions ou des révolutions. Vous continuez d'agréer ce texte ?
Absolument. Dominique Khalifa était un très grand connaisseur de cet univers, à la fois du roman feuilleton et des bas-fonds que le roman feuilleton aime à décrire. Et c'est heureux de pouvoir l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a dans Les Mystères de Paris des scènes d'une violence absolument stupéfiante. Et c'est aussi ça qui a fait son succès et puis son scandale, et son succès de scandale par là même. Il y a notamment des... À la fin, Rodolphe crève les yeux d'un de ses ennemis. Il impose une espèce de supplice de luxure au plus horrible des personnages du roman, le notaire Jacques Ferrand, qui meurt dans des tourmentes sexuelles absolument terribles. Ça va très loin, disons, dans l'outrance et dans la violence.
Alors, quelquefois, sans que ça puisse tout expliquer, on peut aller chercher dans la biographie des auteurs des explications pour leur style, leur invention, leur imagination, l'univers qu'ils recréent. Parlons donc, si vous le voulez bien, Judith Yonkamp, de l'histoire d'Eugène Sue. D'où vient-il ? C'est un itinéraire qui n'est pas sans quelques heures.
Bien, Eugène Sue était donc le fils, l'héritier d'une dynastie de médecins, médecin très proche du pouvoir impérial au moment du Premier Empire. Et il a commencé donc par suivre la voie qui lui était indiquée, donc avec l'idée de devenir chirurgien de marine. Et donc, au cours des années 20, c'est un jeune garçon bien doté, plutôt pas mal de sa personne, qui part donc sur un bateau et qui découvre la Caraïbe, l'univers de la Caraïbe, mais aussi l'esclavage, contre lequel il s'engage très tôt. Et à la fin des années 20, au début des années 30, lorsqu'il rentre à Paris, qu'il entre dans le monde, qu'il achète des chevaux, qu'il est des figures du dandysme de l'époque, il se lance dans un genre qui n'était pas un genre très développé à l'époque, qui est le roman maritime. Donc il écrit des romans d'aventure maritime.
Il va falloir que nous en parlions pour les prochains rendez-vous d'Histoire de Blois qui seront consacrés à la mer.
Ah ben voilà. Alors il y a à Targul, la Vigie de Coadven, des personnages aussi déjà très noirs. Alors c'est une espèce de vision un peu populaire de personnages byroniens qui sont hantés par leur propre noirceur. Et donc déjà tout de suite dans ces romans maritimes, il y a beaucoup de violence, il y a des retournements spectaculaires, il y a la description d'un monde où les passions cuisent, si on peut dire, et qu'on va retrouver dans les Mystères de Paris, notamment dans le couple entre Cécilie et David, qui sont des couples de créoles, comme on disait au XIXe siècle, donc qui viennent de la Caraïbe. Et Cécilie est une figure de la sensualité tentatrice terrible.
Et déjà, il rencontre un grand succès de librairie, tandis qu'il est honoré par certaines plumes importantes. Sainte-Beuve, le principal critique de son temps, et Balzac aussi, à ce moment-là, le félicite.
C'est-à-dire qu'il invente quelque chose qu'il va en fait développer après, qui sont des romans de niche. C'est-à-dire qu'il a découvert une niche éditoriale qui est le roman maritime. Ensuite, il va faire d'autres choses. Il va faire du roman de mœurs. Et puis, à la fin des années 30, au début des années 40, du roman social. Mais il creuse comme ça successivement plusieurs niches autour d'une cassure, cela dit, d'une cassure biographique, à la fin des années 30, lorsqu'il est ruiné.
Et c'est à ce moment-là qu'il va trouver l'absolu succès dont il faut éclairer les clés.
Alors, ce qui se passe, c'est que donc tout au début des années 30, Eugène Sue publie des romans selon le mode de production habituel de l'époque, qui sont des romans en plusieurs volumes publiés en librairie. Alors, c'était une période où le livre coûtait très cher et où donc les tirages n'étaient pas très importants, mais les livres étaient très développés par l'intermédiaire des cabinets de lecture où les lecteurs populaires pouvaient venir louer des volumes pour quelques sous. Au milieu des années 30, en 1836 exactement, deux grands patrons de presse, dont Émile de Girardin pour le journal La Presse, lancent une nouvelle formule de journal en diminuant le prix de l'abonnement par deux. C'était 80 francs par an, ça passe à 40. Et en faisant financer par le manque à gagner, par l'annonce, par la publicité en quatrième page.
La réclame.
La réclame. Mais pour pouvoir assurer les annonceurs que leur réclame serait regardée, il fallait les rassurer sur le fait qu'il y aurait un plus grand nombre de lecteurs. Et c'est donc l'introduction dans un espace qui existait déjà, le rez-de-chaussée du journal. Il faut dire que les journaux de l'époque avaient un très grand format. Donc sur ce rez-de-chaussée du journal, qui est donc la partie la plus basse de la première page et des pages suivantes, séparée du reste du journal par une ligne noire, on se met à publier des romans découpés en morceaux, qu'on va appeler donc les romans feuilletons, puisque cet espace s'appelait déjà l'espace du feuilleton, depuis le tout début du XIXe siècle. Et donc, ces romans feuilletons vont d'abord changer la technique d'écriture du roman, puisqu'il va falloir s'adapter à un rythme de publication quotidienne et à des formats qui sont imposés par le journal.
Il faut que ce soit un tourne-page, comme on dirait aujourd'hui.
Tout est dans l'art de la chute ou de la coupe. Hein. Et alors Eugène Sue va être un de ces auteurs qui maîtrise la coupe particulièrement bien. Et donc Sue, qui est ruiné au milieu des années 30, enfin en 1838, 37-38 exactement, se lance dans le roman feuilleton pour gagner beaucoup plus d'argent. Alors il publie pas tout de suite Les Mystères de Paris, mais juste avant Les Mystères de Paris, il publie déjà un roman qui a énormément de succès, qui s'appelle Mathilde, et qui est déjà une histoire très touchante de fille née d'une relation adultère. Et Mathilde a énormément de succès. C'est à partir de là qu'il se convertit au roman social.
Et c'est là qu'il découvre le vrai filon.
C'est là qu'il découvre le vrai filon, mais en fait, il le découvre progressivement. C'est-à-dire que Les Mystères de Paris sont un roman évolutif, comme on voit d'ailleurs dans certaines séries télévisées aujourd'hui, qui s'adaptent à la réception de leur public.
Et à l'actualité, éventuellement, vous voyez, Plus belle la vie.
Alors absolument, Les Mystères de Paris, c'est l'invention de l'entrée de l'actualité dans le roman. C'est-à-dire que comme le roman est publié pendant un an et demi, donc entre juin 1842 et octobre 1843. Alors au début, comme tous les producteurs culturels, il a de l'avance. Donc il a prévu une première partie qui marche très bien. Mais la réception l'étonne. C'est-à-dire que d'un côté, on crie au scandale parce qu'en effet, c'est immoral, qu'il y a de la sexualité, que c'est mal de montrer des histoires sexuelles dans le journal, etc. Mais d'un autre côté, il reçoit des lettres enthousiastes d'une partie de militants ouvriers socialistes qui lui disent « Mais en fait, vous êtes en train de montrer les souffrances du peuple. Continuez. » Ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et donc, à partir de l'hiver 42-43, il prend une espèce de tournant social, si bien que les épisodes vont être de plus en plus imprégnés de questions d'actualité, qui sont les questions de ce qu'on appelle à l'époque la réforme sociale, et notamment la question de la réforme des prisons, la question de l'accès des plus pauvres au crédit, la question de l'accès des plus pauvres à la justice. Toutes ces questions qui n'étaient pas du tout présentes au début. Et donc, tout en gardant ces couleurs extrêmement contrastées, ces personnages extrêmement saillants, cette noirceur omniprésente dans le roman, il aborde des questions qui sont discutées en direct à l'Assemblée, à la Chambre des représentants, notamment la réforme des prisons, qui est le grand sujet du printemps 1843.
Le roman évolue vers une sorte de militantisme ?
Le roman évolue plutôt vers quelque chose qui est hybride entre de la fiction et de l'écriture d'actualité. Alors Eugène Sue prend position sur certains sujets, mais surtout il fait entendre la voix de ses lecteurs en publiant à la suite des feuilletons des lettres qui lui sont envoyées. Ce qui est aussi une manière de répondre à la critique littéraire qui hurle en disant que c'est un roman scandaleux, en montrant que son roman reçoit l'assentiment de gens très sérieux, qui peuvent être pour certains des magistrats, pour d'autres des réformateurs sociaux, des visiteuses de prison. Et puis progressivement, et c'est là qu'il y a un tournant politique chez lui, au cours de l'été 1843, il laisse de plus en plus venir la voix de certains ouvriers saint-simoniens qui s'intéressent au roman et qui ont le dernier mot dans le roman en octobre 1843.
Jean-Louis Galvin a publié les lettres reçues. Elles sont plus de 600, si je suis bien informé, oui. À la bibliothèque historique de la ville de Paris, dans le Marais, un quartier qui, à l'époque, était assez mal famé, qui ne l'est plus.
Qui ne l'est plus guère. Mais Eugène Sue a reçu énormément de lettres, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il les a gardées. probablement pour pouvoir montrer à quel point ce roman, qui était vraiment décrié par la critique, conspué notamment par la droite conservatrice, avait reçu, recevait un accueil favorable, y compris de la part de lecteurs qui étaient des lecteurs des nouveaux venus dans la lecture du roman, des ouvriers, des ouvrières qui lui écrivent, qui lui signalent que l'œuvre qu'il est en train d'accomplir et qui progressivement est comprise comme un roman en train de dévoiler les misères sociales au jour le jour. Donc des lectrices qui lui écrivent pour lui dire « À côté de chez moi, il y a une femme qui est en train de mourir de faim. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et ce qui est extraordinaire, c'est que Gentu fait quelque chose. C'est-à-dire que c'est un homme qui a des relations dans le tout Paris, comme on disait à l'époque, donc qui fréquente des duchesses, des ambassadeurs, et qui met en contact certaines de ces misères qu'on lui signale. Donc il se prend un peu pour Rodolphe lui-même, son personnage. D'ailleurs, les lecteurs le prennent pour Rodolphe. Donc il se met à mettre en contact certaines de ces misères honnêtes qu'on lui signale avec des gens de la haute société qui se piquent de charité. Alors évidemment, il y a une partie de la gauche radicale qui critique cette espèce de charité nourrie par le roman, comme on critique aujourd'hui le caractère larmoyant de certaines séries. Mais en même temps, ça fait venir dans l'espace public des questions dont on ne parle pas.
On trouve chez Karl Marx une critique de Eugène Sue sur l'inconsistance idéologique de cet auteur. Il n'empêche qu'il compte dans l'évolution des sensibilités. Et c'est précisément le fait que ce soit un roman feuilleton qui lui permet de s'adapter. Je vous citerai volontiers la lettre de Madame B.L. dans une lettre du 24 juin 1843. « Quel grand législateur ne feriez-vous pas ? Comme vous avez bien compris tous les abus d'un système qui ne fait qu'accroître le mal au lieu de le couper à la racine. Courage, monsieur ! Continuez la tâche que vous avez entreprise. Elle est aussi noble que belle et n'en doutez pas, en ébranlant ainsi les convictions, vous tracez le chemin qui doit, et avant longtemps sans doute, mais infailliblement, conduire au but que vous avez marqué. » Tout oui, est dit.
Il est devenu une sorte de romancier justicier. Et c'est vrai aussi que les Mystères de Paris lui ouvrent une sorte de carrière politique.
Alors on va y venir. On pourrait aussi retrouver quelque chose qui annoncerait les hypertextes d'aujourd'hui. Je veux dire que son roman renvoie à d'autres textes. Il va chercher un peu partout sa provende.
Oui, alors il publie des morceaux de brochures sur les questions sociales. Il publie des lettres qui lui sont envoyées. C'est-à-dire que le roman devient une espèce de chambre d'écho de tout ce qui se discute autour de lui dans ces années 1842-43. Et c'est pour ça que le roman feuilleton ouvre un espace qui n'existait pas. Parce qu'évidemment, dans un livre publié en librairie, avec le rythme de la publication en librairie, il n'y a pas cette possibilité d'ancrage dans l'actualité. Et Su fait quelque chose qu'au fond, il est le seul à faire et que plus personne ne fera avec lui. Parce que les Dumas, les Ponsons du Terrail, les Féval, tous les maîtres du roman feuilleton au XIXe siècle, d'abord vont écrire pour beaucoup des romans d'aventure ou des romans historiques, mais même lorsque leurs romans auront une dimension d'actualité, je pense au Mohican de Paris de Dumas ou à certains romans de Féval, ce rapport à l'actualité, qui est vraiment quelque chose que Gene Sue saisit au vol au moment où il commence à publier Les Mystères de Paris, ça disparaît complètement et c'est vraiment la particularité, la grande singularité des Mystères de Paris qui en font un événement culturel qui n'a pas d'équivalent.
Et ça rejoint en même temps la nouveauté de cette presse qui devient industrielle pour la première fois et qui ne peut l'être que précisément parce qu'elle rencontre ce type de dialogue. Et je ne voudrais pas que nous restions sans entendre à nouveau la voix de Gene Sue. Voici un autre extrait de cette adaptation de 1954 que je vous donnais à entendre tout à l'heure. C'est le 10e épisode. Écoutons-le ensemble.
Rodolphe n'a pas oublié sa compagne. Dès le lendemain, sans perdre de temps, en voiture, tous deux partent à la campagne. Fleur de Marie a le cœur bien content. Dans le ciel pur brille enfin l'espérance qu'un peu de bonheur pourrait exister. La pauvre enfant y voit sa délivrance, et dans sa joie, elle se met à chanter.
Ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Le Chourineur a du sang sur les mains, mais son âme est restée capable de sentiments élevés. En écoutant la sinistre conversation qui unissait dans la férocité deux couples d'un rang social si différent, d'un côté le maître d'école et la Chouette, de l'autre Tom et Sarah, le Chourineur a compris que son nouvel ami Rodolphe est en danger. Que va-t-il décider? Bien sûr, ce n'est pas son affaire. Mais avant même d'avoir réfléchi, il s'est agrippé à l'arrière du fiacre de Tom et Sarah et brinque-ballant au risque de se rompre les os sur les pavés humides de la ville endormie, il suit les ennemis de Rodolphe, tel un bon chien dévoué à son maître.
Vous venez d'entendre une production de Jacqueline Lenoir, Les Mystères de Paris, mélodrame radiophonique d'Yvan Audouard et Jacques Legris, réalisé par Bronislav Horvitch.
Avec dans les rôles principaux, Françoise Roset, Anne Capril, Jeanne Marquen, Louis Seigné, sociétaire de la Comédie Française, Jean Servais, Alexandre Rignot et Bernard Lancret.
Complainte de Georges Vamparis, créée à l'Orgue de Barbarie par Germaine Montero et Léo Noël. C'était Les Mystères de Paris, dont vous entendrez la suite demain.
On constate, Judith Lyoncan, à quel point ce feuilleton s'adaptait facilement à la radio des années 50, avant le triomphe de la télévision.
Les Mystères de Paris ont été adaptés de toutes les manières, sur tous les supports. Et dès les années 1840, en petits objets, en jeux, en statuettes, il y a même eu des gravures pornographiques tirées des Mystères de Paris. Donc c'est aussi cette caractéristique de la littérature sérielle, c'est qu'elle a une très grande mobilité sur toutes sortes de supports. Et Eugène Sue découvre ça, met ça en place à cette époque-là. L'autre particularité qu'on entend bien dans cet extrait, c'est l'importance donnée à la saillie des personnages. Et les Mystères de Paris ont aussi traversé le temps parce que Eugène Sue a inventé des personnages dont certains sont encore présents dans la langue, alors même qu'on a oublié le roman, comme par exemple le personnage de Madame Pipelet, la concierge.
Monsieur et Madame Pipelet,
voilà,
la
quand
concierge.
On dit de quelqu'un que c'est une pipelette, c'est bien, c'est une...
Le mot un peu dérivé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très bavard.
Oui, mais Madame Pipelet parle beaucoup trop dans Les Mystères de Paris. Donc, il y a vraiment une présence culturelle du roman qui a traversé le temps. Ce sont ces personnages aussi, comme le Chourineur, dont on a déjà parlé, comme Fleur de Marie, qui est une figure de la pureté morale souillée, mais aussi d'autres personnages qui sont très importants et qui sont des espèces de types, comme on disait au XIXe siècle, c'est-à-dire des personnages qui concentrent en eux un certain nombre de caractéristiques sociales qui permettent au lecteur ensuite de déchiffrer le monde dans lequel il évolue à partir de ces types. Donc de pouvoir dire un tel, c'est un... Alors par exemple, il y a un lapidaire, un ouvrier qui est à la fois particulièrement misérable et particulièrement vertueux. Et misérable parce qu'il est vertueux, parce que c'est un ouvrier en pierres précieuses qui ne vole pas les pierres précieuses qu'il travaille. Alors la mansarde des Morel est un des grands moments mélodramatiques des Mystères de Paris, parce que c'est absolument horrible cette mansarde. Mais tous ces personnages, toutes ces scènes servent une espèce de grammaire qui va permettre au lecteur de comprendre le monde dans lequel il évolue, et ce qui explique aussi l'intensité du courrier qui a été envoyé à Eugène Sue.
Et qui explique aussi peut-être pourquoi l'auditoire a été aussi large. Il allait depuis les marquises du Faubourg Saint-Germain qui trouvaient l'occasion de s'encanailler dans l'œuvre, et les classes populaires, les pipelettes ou les autres qui pouvaient en face, au contraire, découvrir bouche bée les fastes de la cour du prince Rodolphe et s'attendrir sous le malheur des pauvres eux-mêmes.
Il y a surtout dans les Mystères de Paris une maison extraordinaire qui est la maison de la rue du Temple, qui est donc en bas de la rue du Temple, et qui est une maison qui représente une sorte de microcosme de la société française, puisqu'il y en a, il y a une classe différente à tous les étages. Donc au premier étage, il y a des riches, et tout en haut, dans la mansarde, il y a des pauvres. Et cette maison va être une sorte de nœud dramatique des mystères de Paris, où on va croiser des personnages horribles, comme l'abbé Polidori, ou la merveilleuse grisette Rigolette, qui ensuite a été peinte avec son oiseau, son serin, et qui est une figure de l'ouvrière charmante, qui ensuite va migrer, elle aussi, dans le temps, devenir la midinette de la belle époque. Rigolette est une figure... Elle fonctionne en duo avec Fleur de Marie. C'est une ouvrière vertueuse qui aime le travail, qui est toujours souriante et qui est d'ailleurs récompensée par le fait qu'elle a un gentil amoureux.
On pourrait penser que cette opposition binaire, le bien contre le mal, pourrait paraître simpliste aux yeux des grands romanciers aujourd'hui reconnus du même temps. Et pourtant, il n'y a pas de solution de continuité entre l'œuvre d'un su et celle, par exemple, de Balzac. On passe progressivement d'un à l'autre. Et d'ailleurs, Balzac, au moins dans un premier temps, avant de se brouiller, on a dit du bien. Écoutez cette lettre qu'il a adressée à Eugène Sue. C'est un extrait de « Comment ça s'écrit » de Michel Grégoire sur France Inter, le 15 juin 1997.
Cher et illustre ami, avec quelle admiration je lis chaque jour votre extraordinaire feuilleton. Jour et nuit, vos personnages me poursuivent. Je pousse soigneusement les verrous de ma porte, le jour pour mieux vous lire, et le soir parce que je crains une visite du maître d'école. Si j'entends une mendiante chanter dans la rue, je pense aussitôt à Fleur de Marie. Dans la boutique du Niav, près de chez moi, il y a un hibou femelle, attaché par la patte à son perchoir, et qu'on lâche dans la cave la nuit pour qu'il dévore les rats. Quand je passe par là, je traverse afin de ne pas l'apercevoir à travers la devanture. Car bien qu'il ait ses deux yeux, elle me rappelle la chouette. Et, contraste avec ce musée d'horreur, vous dépeignez avec une belle sûreté de touche des grandes dames, des grands seigneurs. La présente lettre est intéressée. Je suppose que, dès leur publication terminée dans les débats, vos mystères de Paris paraîtront en volume. Une charmante personne qui m'honore de son amitié voudrait un des premiers exemplaires revêtus de votre signature. Escomptant votre complaisance, j'ai pris la liberté de vous engager dans cette largesse. Votre admirateur et ami, Balzac.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Vous n'avez pas identifié Judith Yonkan, la charmante amie dont il est question ?
Je devrais.
Votre érudition a ses limites.
Absolument. Ce qu'il y a, c'est que dans cette lettre, ce qui ne transparaît pas, c'est qu'il y avait une petite jalousie entre confrères, hein, puisque le succès de Eugène Sue et l'argent qu'il a gagné grâce au mystère de Paris faisait évidemment l'envie de tous ses confrères. Georges Sand admirait aussi beaucoup Sue et probablement avec un peu plus de bonne foi que Balzac, qui n'aimait pas trop la manière de faire. Cela dit, quelques années plus tard, lorsqu'il se lance dans « Splendeur et misère des courtisanes » qui sont publiés en 1844, il écrit à Madame Anska « Je fais du su tout pur ». Donc il avait bien conscience qu'il avait une manière d'écrire, qu'on trouve en effet dans le côté un peu feuilletonesque de « Splendeur et misère des courtisanes », qui sont d'ailleurs publiés en feuilleton. Mais Balzac était beaucoup moins à l'aise dans l'exigence de format du roman feuilleton. C'est-à-dire que Balzac, c'était un auteur qui avait besoin de prendre de la place, comme chacun sait, qui fait des longues descriptions. Et donc cette espèce de calibrage obligatoire de l'épisode qui doit tenir sur deux pages, ne convenait pas très bien à Balzac, alors que Eugène Sue en était fait une espèce de contrainte et de spécialité.
Un des traits de ce roman feuilleton, c'est qu'il est payé à la ligne.
Dumas a beaucoup fait ça.
Grimaud, un des valets des Trois Mousquetaires, est toujours taciturne et ne dit que « oh ». Alors on dit qu'à un moment donné, Dumas, comme son éditeur s'était plaint qu'il triche de cette façon, avait supprimé Grimaud.
Oui, alors les techniques de paiement à la ligne se mettent progressivement en place. En réalité, il y a certains romanciers qui continuent à être payés au forfait, on dirait. Mais c'est vrai que progressivement, tout au long du XIXe siècle, puisque le roman feuilleton a une très longue vie, les éditeurs de presse mettent au point des techniques donc de paiement à la ligne ou au nombre de caractères ou au nombre de mots. Ça dépend, hein. Il y a toutes sortes de manières de payer. Et évidemment, les auteurs qui sont obligés de rendre des textes à un rythme quand même très soutenu et qui sont des textes très calibrés, ben, de temps en temps, essaye un peu de tricher pour respirer. D'où ces passages à la ligne, ces O, ces A. Et éventuellement, d'ailleurs, ces usages ironiques du passage à la ligne.
Vous évoquez le succès immense de Gensu. On en a des témoignages. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, très pondéré, Monsieur Duchâtel, entre en coup de vent dans son bureau, jette sa serviette sur la table et dit à ses conseillers « Eh bien, messieurs, il est donc vrai, Fleur de Marie s'est noyée. » On dit aussi, c'est une autre anecdote représentative, que le vieux maréchal Soult, ministre de la guerre, avait appris que Eugène Sue avait été sanctionné de 15 jours d'arrêt pour absence injustifiée au service de la garde nationale et qu'il avait décidé du coup d'arrêter son feuilleton. Immédiat sentiment de frustration parmi le public et notamment chez le maréchal Soult. Il déclare « Mais vous n'y pensez pas, c'est la révolution que vous voulez faire, vous allez me le libérer immédiatement. »
Alors, il y a eu énormément d'anecdotes sur le caractère addictif, en fait, des Mystères de Paris. Il y a une anecdote de Gautier, je crois, de Théophile Gautier, qui prétend que certains malades avaient attendu la fin des Mystères de Paris pour mourir. Alors, je ne sais pas si il y a un producteur de série aujourd'hui qui peut se targuer d'un tel succès auprès des malades et des moribonds.
Game of Thrones, peut-être.
Il y a aussi des lecteurs qui écrivent pour protester, par exemple, lorsqu'un personnage meurt ou lorsqu'un personnage ne revient pas. Donc, toute chose qui existe aussi dans les séries, donc, où certains spectateurs réclament la réapparition, le retour d'un personnage qui a particulièrement plu. Alors, on se débrouille pour arranger l'intrigue, pour que le personnage revienne.
Conan Doyle, plus tard, sera obligé de redonner vie à Sherlock Holmes, qu'il avait tué, tellement il en avait assez.
Voilà, donc chez Eugène Sue, il y a des... Alors, ça va pas jusque-là, mais il y a quand même cette idée d'un attachement du lectorat à l'univers et aux personnages. Et puis cette attente vraiment très intense de la suite, de cette la suite à demain, c'est ce qui est à la fin de chacun des épisodes. Et alors, effectivement, il y a des moments d'interruption, parce que Sue est malade, parce que Sue se repose, parce que Sue ne sait pas quoi écrire, parce que... Et alors, on s'impatiente, voilà. Et il y a énormément de caricatures hein, de l'époque dans la presse satirique, notamment l'une où on voit auprès de l'éditeur une députation littéraire, où on voit donc apparaître tout le peuple de Paris qui s'adresse à l'éditeur en argot des Mystères de Paris, et lui donc qui demande « Quand nous abouleras-tu la fin des Mystères de Pantruche ?»
Cette image est reproduite dans la très belle édition que vous avez donnée chez Quarto des Mystères de Paris. Judith Joncan.
C'est un dessin du dessinateur Traviès pour la caricature. Et c'est déjà quelques mois après le début du feuilleton, en novembre 1842, avec donc un dialogue en argot, puisque une des particularités aussi des Mystères de Paris, il faut quand même le dire, c'est que le début du roman est émaillé de mots d'argot qui sont traduits en notes bas de page pour le lecteur qui ne comprendrait pas.
Et qui alors, leur donne éventuellement d'agréables frissons, pénétrés
absolument.
Dans
alors,
ce
c'est
langage.
C'est une langue évidemment réinventée par Eugène Sue et qui participe de cette idée qu'il y a une barbarie au cœur de Paris. Alors Eugène Sue se réclame de Fenimore Cooper, hein, des derniers des Mohicans. Là, ce sont les Mohicans de Paris, ce qui est d'ailleurs un titre qui va être repris par Dumas, manière de dire qu'il va faire une suite des Mystères de Paris, hein, les Mohicans de Paris.
Et c'est Eugène Sue lui-même qui s'attache ensuite à un ouvrage. Le second immense succès, c'est Le Juif errant. Le Juif errant, qui paraît en 1844, non plus dans le journal des débats comme les Mystères de Paris, mais dans le Constitutionnel, un autre quotidien à succès. Les quotidiens augmentant d'un coup leur tirage quand ils accueillent ces feuilletons. Écoutez cet extrait. Qui est encore une adaptation radiophonique, ultérieure de 7 ans à celle que nous avons entendue précédemment, le 28 septembre 61, dans le Collège des Ondes, Le Juif errant. Vous nous expliquerez après la portée de la nouveauté de cette œuvre par rapport au Mystère de Paris.
Mon père, je veux me séparer de votre ordre. Mon père, je ne veux plus faire partie de la Compagnie de Jésus.
Que dites-vous? Vous séparer?
Je le veux!
Qui a pu faire naître une semblable résolution?
Dieu. Qui n'a pas permis que mon cœur s'égarât en même temps que vous égariez ma raison. Dieu, qui a voulu que ma conscience se révoltât enfin contre les maximes de cet ordre, qui ne disent pas « aimez-vous les uns les autres », mais « défiez-vous les uns des autres ».
Remerciez, monsieur l'abbé, mon enfant, et bénissez sa touchante sollicitude. Depuis longtemps, monsieur d'Esgrigny avait lu dans votre cœur. Il prévoyait votre demande. Et cette liberté que vous désirez aujourd'hui, il l'a sollicitée, il l'a obtenue. Vous êtes relevé de vos voeux par la cour de Rome. Ah, nous n'aurons qu'un regret. C'est de voir notre cher fils choisir pour nous quitter le jour où doit lui échoir quelque bien de ce monde. Oui, un héritage de l'argent qui devait appartenir à nos frères, c'est-à-dire à tous les malheureux.
Un héritage ? Oh, je jure, monsieur, que jamais je n'ai soupçonné que m'importe l'argent à moi.
Oh, une faible somme peut-être, mais peut-être aussi...
Je suis jeune, je suis fort, je travaillerai. C'est la liberté que je demande.
Bien, bien, mon enfant. Vous renoncerez aux biens périssables de ce monde. Et vous pourrez du moins vous séparer de nous en emportant votre honneur et notre estime.
L'acte est en règle, vous n'avez plus qu'à le signer vous-même.
Oh, pardon, le mien d'abord, monsieur l'abbé. Une toute petite signature pour abandonner l'héritage, quel qu'il soit.
Le notaire.
Messieurs, voici le testament. Je meurs faussement accusé, assassiné par les jésuites.
Grand Dieu.
Je confie les débris de ma fortune à un ami fidèle afin que cet argent, placé d'âge en âge pendant 150 ans, donne à mes descendants une fortune immense. Grâce à moi, le génie du bien et le génie du mal seront en présence. La lutte commencera et Dieu protégera les justes.
C'est fait.
Puissent mes héritiers, prévenus depuis bien des années par la médaille que portera chacun d'eux, ne pas manquer au rendez-vous. Le 13 février, quand midi sonnera, mon héritage sera partagé entre ceux de mes descendants qui auront assisté à la lecture du présent testament. Signé Marius Rennepont.
Le nommé Gabriel François-Marie de Rennepont est en seul ici présent.
Moi, Gabriel de Rennepont.
L'héritage de son aïeul lui appartient à lui ou à ceux à qui notre cher fils en a fait l'abandon.
Cette association maudite qui a persécuté ma famille. Oh, que je fais, mon Dieu.
Cette composante anticléricale, Judith Lioncan, nous ne l'avions pas encore introduite dans notre réflexion sur l'œuvre et la personnalité d'Eugène Sue, auquel nous consacrons cette émission.
Alors, c'est très important dans Le Juif Errant, où il y a en effet une figure du mal qui est incarnée par la Compagnie de Jésus, par les jésuites. Alors, bon, c'est un thème qui est très à la mode, hein, dans les années 1840. Mais de manière globale, Le Juif Errant est marqué par un engagement social et politique beaucoup plus radical de la part de Eugène Sue, puisque d'un côté, donc, il y a cet aspect très anticlérical, très anti-religieux, qui va d'ailleurs susciter à nouveau le scandale, évidemment, une partie de la droite conservatrice trouvant que le roman est infréquentable, mais une autre partie du lectorat se reconnaissant dans ces histoires d'héritage qui auraient été détournées par de méchants jésuites. Mais d'un autre côté, il y a aussi dans les Mystères de Paris un plaidoyer pour la réforme sociale autour d'une figure qui est la figure d'un entrepreneur marqué par la lecture de Charles Fourier et de Saint-Simon.
Les
socialistes dits utopiques par Marx. Et donc, il y a la fabrique de Monsieur Hardy, qui est une organisation quasi phalanstérienne, à une époque où Eugène Sue a énormément d'échanges avec les fourieristes de la démocratie pacifique.
Phalanstérienne, vous parlez du phalanstère, qui est la grande utopie de Fourier.
De Fourier, absolument. Donc, la fabrique de Monsieur Hardy est une espèce de traduction romanesque de la lecture de Charles Fourier ou des disciples de Fourier par Eugène Sue, disciples qu'il fréquentait et dont il est souvent question d'Eugène Sue dans la presse fourieriste de la fin des années 40, en particulier dans la démocratie pacifique. Et puis il y a un autre personnage, le héros ouvrier du roman, qui s'appelle Agricole, comme Agricole Perdiguier, qui, au même moment, avait inspiré à Georges Sand le compagnon du Tour de France. Donc il y a un intérêt pour la question sociale et pour la réforme des modes de production industrielle qui est vraiment au cœur du Juif errant. L'un et l'autre font le caractère politique du roman.
La révolution de 1848 est accueillie évidemment fort bien par Eugène Sue, lui donne l'occasion d'un rôle politique, mais en fait assez effacé, comme celui de Lamartine de Tocqueville ou de Victor Hugo, mais avec un éclat tout à fait inférieur. Il est un député de Paris, muet.
Il y a deux époques de l'engagement de Eugène Sue en 1848. Il y a une première époque où il est à la campagne, il a une maison en Sologne, au Borde, et il s'engage en faveur de la République en rédigeant des petites brochures dans une langue très simple pour aller convaincre les paysans de soutenir la République. Et ceci, il va le faire jusqu'à la fin de l'année 1848 en luttant contre la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est ensuite élu.
Il vote le Drurelin, semble-t-il.
Et ensuite, il est désigné au printemps 1850, au moment de ce qu'on appelle des élections complémentaires, pour représenter la gauche démocrate-socialiste. Alors il y a un débat très intéressant au sein de la gauche démocrate-socialiste, certains disant qu'il n'est pas question de présenter un romancier à l'élection, et notamment en disant « mais l'Europe attend de nous une élection politique, elle n'attend pas de nous une élection romantique ». Et pourtant, c'est Eugène Sue qui est choisi, parce qu'on pense, à juste titre, que son nom va permettre de réunir le plus grand nombre de suffrages parmi les électeurs parisiens. Mais c'est une grande déception. C'est-à-dire qu'Eugène Sue, qui était un homme de la plume, de l'écriture, ne parlera jamais, une fois élu, il ne prend pas la parole. Il ne prend même pas la parole lorsqu'à l'été 1850, la droite fait passer à l'Assemblée un amendement qui s'appelle l'amendement Riancé et qui est un amendement hostile au roman feuilleton et qui en fait conduit à taxer d'un timbre supplémentaire, puisqu'on taxait les journaux par le timbre, les journaux qui publient des romans feuilletons.
Riancé,
hein, voilà, qui était un député légitimiste et qui présente cet amendement dans le cadre de la réforme d'une loi sur la loi sur la presse, qui par ailleurs était une réforme conservatrice et qui essayait de revenir un peu en arrière des acquis de la Révolution de février.
Après le coup d'État de décembre 1851,
Eugène Sue s'exile. Il s'exile en Savoie, à Annecy, donc il s'installe au bord du lac d'Annecy, où il va passer ses dernières années, tout en rédigeant ce qui est sa dernière grande œuvre. En réalité, il l'avait déjà commencé en 1849, qui s'appelle « Les mystères du peuple », sous-titré « Histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges ». Donc là, on voit bien tout le chemin parcouru par Eugène Sue, d'un point de vue politique, depuis « Les mystères de Paris ».
Il rejoint la vieille idée du XVIIIe siècle, Boulainvilliers et les autres, sur l'opposition entre les Gaulois originaires et les Francs qui seraient venus les opprimer.
Il y a un passage, en fait, d'une lutte des races, mais au sens du XIXe siècle, hein, les Francs et les Gallo-Romains, vers la lutte des classes. En fait, il y a une superposition chez Sue entre la lutte des races et la lutte des classes. Alors, il a lu Sue pour écrire « Les mystères du peuple », beaucoup d'histoires romantiques, en particulier Augustin Thierry, qui est largement cité dans les notes des Mystères du Peuple. C'est une sorte de mise en roman des lectures de l'historiographie romantique par Eugène Sue, dans un projet impossible, puisqu'il s'agit de raconter l'histoire de France à travers l'histoire de plusieurs familles, depuis la Gaule franque jusqu'en 1848 compris.
Les gentils Le Brenne et les méchants Plevernel.
Voilà, ça, ce sont les aristocrates. Et il y a une idée magnifique, en fait, dans Les Mystères du Peuple, même si c'est un roman un peu difficile à lire. Il y a l'idée que les familles populaires, elles aussi, ont leurs archives, comme les nobles. Et donc, il y a un coffre que la famille de prolétaires se transmet de génération en génération, dans lesquels se trouvent les artefacts, les traces d'une famille de prolétaires. C'est une très belle idée et qui n'est pas sans faire penser à des projets historiographiques qui ensuite ont pu être menés, cette idée qu'il y a des archives du peuple.
6000 pages, on reste stupéfait devant le formidable labeur de ces écrivains du XIXe siècle.
En réalité, il est assez difficile même de comprendre le temps qu'il pouvait consacrer à l'écriture. Eugène Sue était... D'abord, il avait un problème, c'est qu'il était vendu à ses éditeurs pour pouvoir continuer à vivre. Donc, il devait écrire des milliers de pages par an. Il a publié des... Parce que là, on parle des plus connus, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Entre Le Juif errant et Les mystères du peuple, il y a Martin ou Les misères des enfants trouvés, il y a Les sept péchés capitaux, des œuvres qui prennent plusieurs volumes dans une bibliothèque.
Dans l'extrême hiver de sa vie, puisqu'il meurt En 1857, à 53 ou 54 ans, Eugensius se trouve condamné par contumace par la justice impériale. Écoutez ce jugement qui est rendu le 25 septembre 1857. Il est lu ici par Ilsa Ourcade dans La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, le 3 mars 2011 sur France Culture.
Attendu que l'auteur des Mystères du Peuple, Eugensius, décédé au cours de la poursuite, a entrepris cet ouvrage en 1849 et ne l'a continué jusqu'en 1857, qu'en haine des institutions et du gouvernement de son pays, que dans un but évident de démoralisation, que l'on y trouve en effet dans chaque volume, à chaque page, la négation ou le renversement de tous les principes sur lesquels reposent la religion, la morale et la société, que Eugensius représente la France comme ayant été partagée de tout temps en deux races. L'une, la race franque, conquérante et oppressive, l'autre, la race gauloise, conquise et opprimée. Qu'il présente cette division de race comme ayant traversé tous les âges, s'étant perpétuée jusqu'à nos jours, et ayant amené l'oppression de la classe de la société qu'il appelle la race des prolétaires, successeurs des Gaulois, par une autre classe qu'il nomme celle des tyrans, couronnés, casqués, mitrés, successeurs des Francs. Qu'il excite les premiers à se compter et à faire aux seconds une guerre d'extermination. La cour impériale de Paris ordonne la destruction des clichés et la suppression de l'ouvrage « Les mystères du peuple » par Eugensius, de tous les exemplaires saisis et de tous ceux qui pourront l'être, et en ordonne l'entière suppression.
On retrouve Judith Lioncamp dans ces eaux-là, le fameux procureur Pinard, qui s'en est pris à Baudelaire et à Flaubert, à la même époque, avant de devenir lui-même ministre de l'Intérieur, significativement.
C'est-à-dire que le début des années 50, enfin le début du régime impérial, est marqué par une sorte de grande campagne culturelle contre le roman feuilleton et le roman, et la littérature en général, avec une espèce de projet comme ça de moralisation de l'espace littéraire, qui va donc donner lieu à un certain nombre de procès aux issues diverses. Alors Eugensius est condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, hein, qui est au titre de la loi du code pénal de 1810. Ça veut dire que tout doit être détruit. C'est vraiment la destruction de l'œuvre dessus. C'est la victoire, disons, d'une campagne contre le roman feuilleton qui, en réalité, avait commencé dès les années 1840 et à laquelle la révolution de 1848 semble avoir donné raison, comme si tout ce qu'on avait reproché au roman feuilleton, la démoralisation, la lutte contre la famille, la lutte contre l'ordre social, s'était réalisé en 1848. Donc les conservateurs triomphent, et dans ce triomphe reviennent sur ces romans, et en particulier sur les Mystères du Peuple, qui combinent un peu tous les défauts attribués au roman feuilleton, anticlérical, favorable à la Révolution, etc. Et donc voilà, cette condamnation de 1857, c'est vraiment Le triomphe des adversaires du roman feuilleton.
Avec l'émergence, vous leur faites un sort, de façon négative, naturellement, Judith Lioncamp, dans vos écrits, émergence d'un certain nombre de personnages qui font profession de condamner le roman feuilleton. Il faut citer le nom de l'ineffable Chapuis-Mont-Laville.
Député de Saône-et-Loire, en effet, qui a porté à l'Assemblée nationale plusieurs assauts contre le roman feuilleton en 1843, puis en 1845, puis encore en 1847. Donc c'était un député qui montait à la tribune pour faire... On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Hein, donc il montait à la tribune pour prononcer des diatribes contre le roman feuilleton. Alors Chapuis-Mont-Laville s'en était fait une spécialité, et puis aussi toute une presse qui s'était fait une spécialité de la condamnation du roman feuilleton.
Chapuis écrivait... La partie principale et politique, tout à coup, est devenue la partie secondaire. Le feuilleton a pris dans le journal l'importance qui appartenait autrefois à la politique. C'est une critique centrale. Il ajoute « Ce nouvel état de choses prouve à la fois la défaillance des mœurs et l'affaiblissement de l'esprit politique. »
En fait, chez ces contempteurs du roman feuilleton, il y a la crainte que la fiction envahisse l'espace du journal et que donc les lecteurs de journaux ne fassent pas bien la différence entre ce qui relève du roman et ce qui relève de l'actualité politique. Mais ils craignent aussi quelque chose qui est tout à fait inverse, qui est que le roman parle de sujets trop sérieux comme justement ces questions de réforme sociale dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut un peu flèche de tout bois, si on peut dire, pour condamner le roman feuilleton. À la fois rendre le journal pas sérieux et rendre la fiction trop sérieuse. Mais il y a un argument, notamment dans les diatribes de Chapuis-Mont-la-Ville, qui est très important et qui montre quand même l'importance politique et sociale du roman feuilleton, c'est qu'on en vient presque à accuser Eugène Sue d'avoir inventé la lutte des classes. Les mystères de Paris, ce serait l'invention de la lutte des classes. Alors évidemment, ce n'est pas la lecture de Marx qui considère que tout ça est un brouet idéologique de basse qualité, mais si on regarde la réception du roman, en effet, la force politique de la fiction est là.
C'est d'ailleurs patent dans les jugements que nous venons d'entendre. Cette opposition.
Absolument, c'est bien cela qu'on reproche à Eugène Sue. C'est-à-dire c'est de faire exister dans l'espace de la fiction, et donc pour le plus grand nombre, des questions sociopolitiques qu'on voudrait pouvoir discuter, disons, dans un espace plus restreint et plus contrôlé.
Il y a eu des ironies contemporaines à l'égard du succès des séries, mais on ne les a jamais vues atteindre cette intensité, cette agressivité qu'à l'époque, Chapuis, Mont-la-Ville et les siens portent.
Ce qu'on reproche de manière continue aux romans feuilletons, comme aux séries télévisées, c'est la démoralisation de la jeunesse. C'est présent dans la condamnation des mystères de Paris, puisqu'un des grands arguments, c'est de dire « mais alors, les journaux qui traînent sur toutes les tables vont pouvoir être lus par n'importe qui, y compris par de très jeunes gens ou par de pures jeunes femmes ». Alors cette crainte de la démoralisation de la jeunesse, il me semble qu'elle n'a jamais vraiment disparu.
Eh bien, ce sera le mot au final pour conclure sur une permanence. Judith Lioncamp, merci d'être venue à ce micro nous parler d'Eugène Sue. Vous avez donné une magnifique édition des Mystères de Paris, en la préfaçant avec tout un appareil de notes, chez Gallimard, collection Quarto, en 2009. Hommage aussi soit rendu à votre beau livre qui vous a installé dans ce champ avec éclat, Judith Lioncamp, paru en 2006 chez Talendier, La lecture et la vie, les usages du roman au temps de Balzac. Notre conversation s'est située aussi dans la ligne de cette réflexion.
Oui, c'était un livre qui était en partie consacré au courrier de lecteurs envoyé à Balzac et à Eugène Sue dans ces années 1830 et 1840.
Et puis plus récemment, à cette occasion, nous vous avions invité, je me le rappelle, pour parler de Barbet d'Aurevilly. Cette émission est en ligne. Vous avez publié La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature, chez Gallimard, en 2019. On peut renvoyer à la biographie déjà ancienne, mais très brillante, coruscante, de Jean-Louis Bory, Eugène Sue, le roi du roman populaire, qui était paru chez Hachette en 1962. Le Paris d'Eugène Sue, c'est un Paris, nous l'avons montré, largement disparu, mais que l'on retrouve très présent dans l'œuvre magnifique de Marville. Et je renvoie au livre de Patrice de Moncamp qui s'appelle « Paris avant et après, avant Haussmann et aujourd'hui, rencontre entre ce qui était à l'époque et ce que nous pouvons à présent découvrir quand nous nous promenons dans la capitale.
Paris n'est pas ce que l'on voit, Paris n'est pas seulement ce que l'on voit, sous le clinquant de pourpre et d'or, ce qu'on oublie c'est l'envers du décor, les grands boulevards et la requête, le grand véfou et le du coin, les favoris, les roues flaquettes, les femmes qui ont tout et les filles qui n'ont rien. Les mystères de Paris.
Et sur le fond désinvolte d'un extrait d'une comédie musicale de 1964, le livret était de Marcel Achard, Eugène le Mystérieux. J'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Romain Luquiens à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon.
France Culture présente « Vers un pays lointain », dialogue sur l'Antiquité. Un voyage inspirant dans le passé pour découvrir les richesses du temps et mieux comprendre notre présent.